Apocalypse chapitre 1. Nous approchons ces études, pas pour trouver le spectaculaire, mais parce que nous sommes convaincus que l'homme, c'est-à-dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre de pain seulement. Le boulot, métro, dodo ne suffit pas. Il faut la parole de Dieu. Alors je lis Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1, mais nous allons surtout regarder le verset 9 et on va parler des biens communs à la famille de Jean. Quels sont les biens qui sont communs à la famille de Jean ? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui pars avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Je veux considérer ensemble cette phrase dans le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Alors, notez qu'il se présente ici comme votre frère qui est part avec vous. Et puis, il mentionne trois choses qui ont le même poids dans la phrase. Il y a un seul article, en fait, pour ces trois choses, introduit les trois choses, qui veut dire qu'ils vont, on ne peut pas dire de pair, puisqu'il y en a trois, et pas deux, mais ces choses vont ensemble, sont tous dans la même forme grammaticale. Et donc, il a part avec eux donc, dans ces trois choses. Et ces trois choses sont quoi ? C'est quoi la première chose ? J'ai part avec vous dans la quoi ? Ou à la tribulation. Et puis deuxième chose, au royaume. Et puis la troisième, à la persévérance. Et le en Jésus pourrait donc désigner les trois. Je vous donne la traduction, la Bible en français courant. Je suis Jean, votre frère. Uni comme vous à Jésus, je suis votre compagnon dans la détresse, le royaume et la persévérance. C'est une bonne façon de le dire. Je suis votre compagnon dans la détresse, le royaume et la persévérance. Ou la parole vivante, où il essaye un peu de d'expliquer un peu plus dans sa traduction très dynamique. Il dit ceci: « Celui qui écrit, c'est Jean, votre frère, votre compagnon, qui partage avec vous dans la communion avec Jésus à la fois les épreuves, les souffrances endurées avec patience, la royauté et la ferme attente du retour de Jésus. » Ou encore, je vous lis la parole de vie: « Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. » J'aime bien aussi la façon de le dire. Avec vous, je souffre. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Alors, la première chose que je veux noter, c'est dans cette communion, c'est cette communion qui existe dans la famille de Dieu. On peut dire la famille de Jean. Parce qu'il dit ici « mes frères ». Et, il y a deux mots ici, « mes frères » et c'est un mot grec qui a pour racine le mot « koinonia ». Vous avez un mot grec que vous avez peut-être entendu parler, qui parle de la communion fraternelle, c'est-à-dire ceux qui partagent avec moi une certaine communion. Vous savez qu'en Actes 2, 42, il dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et puis quoi? Dans la communion fraternelle, et c'est ce mot « koinonia ». Ce n'est pas exactement le même mot qu'ici en Apocalypse. Il y a un préfixe « sug koinomos », mais c'est un mot qui est lié, qui a la même racine, de partager quelque chose en commun. En 1 Corinthiens 1, 9, il dit que Dieu est fidèle, qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ou pour vous qui étudiez la lettre aux Philippiens, Paul dit: « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez. » C'est ce mot koinonia, de la part que vous prenez, la communion que vous avez avec moi à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et ce mot spécifique qui est utilisé ici par Jean parle du fait d'être partenaire ensemble, de participer ensemble. Et Paul l'utilise en Philippiens chapitre 1, verset 7, quand il dit « Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes lien, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous, quelqu'un connaît la fin du verset, vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Il dit, moi j'ai une grâce du Seigneur et vous participez à cette même grâce. Ça c'est exactement le même mot que Jean utilise ici. Vous participez avec moi dans ces choses. Donc c'est un partage. C'est comme quand on a un agape ou un repas où on participe tous dans la nourriture. Ici, c'est des choses dans lesquelles tout le monde, enfin tous ses frères, participent. Donc, il se présente comme votre frère et votre compagnon, votre associé, celui qui partage avec vous la souffrance, le royaume et la persévérance. Voici nul autre que l'apôtre Jean qui parle. C'est quand même frappant. Il faut s'arrêter, il faut penser à cela. C'est le seul apôtre toujours en vie. Si cette lettre a été écrite vers les années 90, tous les autres apôtres sont maintenant dans la présence du Seigneur. Il est le seul dans le monde à avoir toujours ce statut d'apôtre que Jésus a missionné pour fonder l'Église chrétienne. Et il pourrait être le pape, si vous voulez. Et il se présente comme votre frère, votre frère. Je suis votre compagnon. Et ceci nous démontre qu'il n'y a pas de différentes catégories de chrétiens, n'est-ce pas? Il n'y a pas des super chrétiens et des chrétiens moins super. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Même l'apôtre Jean fait partie de cette même famille. Et j'aime bien ce que Pierre dit, c'est en 2 Pierre chapitre 1. Il dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. » Et puis il adresse cette lettre à ceux qui ont reçu en partage une foi, écoutez ces mots, du même prix que la nôtre. Vous avez reçu une foi qui est du même prix, c'est-à-dire de la même valeur que notre foi. La Bible de Sommeur dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous. » Deux points, la foi. Vous avez le même privilège que nous. Vous avez reçu aussi la foi comme nous. Vous voyez, on est tous égaux devant le Seigneur. Nous sommes tous de la même famille. Et c'est pour cela qu'il les appelle frères. Il les appelle frères. On a vu en 1 Thessaloniciens 1, où Paul dit, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, l'église qui est en qui? Non, Dieu le Père. Dieu le Père, qui fait donc de nous des frères. Et à maintes reprises, on trouve cette appellation dans les lettres. Frère, je vous exhorte, frère, etc. Et ce n'est pas à prendre à la légère, c'est quelque chose qui a un sens, un poids pour nous les chrétiens. Nous faisons partie de la même famille car Dieu est notre Père. Alors, quels sont les biens en commun à la famille de Dieu? Il y a dans les infos des familles qui se déchirent parce qu'elles ne veulent pas partager les biens entre elles. Nous avons des biens à partager entre nous. Et quel est le premier de ces biens? Ah oui, personne ne va garder tout ça pour lui, je pense. Hein? Nous avons la tribulation ou l'affliction. Il dit, moi Jean, votre frère qui est part avec vous, qui partage avec vous, qui participe avec vous à la tribulation. Jésus a dit, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et à la fin du premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas, ils rebroussent chemin, ils reviennent et ils repassent par toutes les mêmes villes. Actes 14, 21 et 22 dit, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de quoi? C'est ce même mot que Jean utilise. Beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Notez le lien entre tribulation et royaume, on y reviendra. Et ça devient en fait, la tribulation, c'est quelque chose que nous avons en partage. Tous les chrétiens partagent la tribulation. Et ça devient même un signe d'un vrai chrétien. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la tribulation qui sert souvent à déraciner les faux. Vous connaissez la parabole du semeur. Et Marc 14, versets 16 et 17 dit que les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec quoi? Avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient, et on trouve ce mot, une tribulation ou une persécution. Jésus utilise les deux mots ici. Une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alors c'est le mot est plus grand que simplement persécution pour la foi, c'est juste les tribulations, les difficultés de la vie. Et quand ça arrive dans la vie de certaines personnes, ils ont reçu avec joie. Mais on sait que ce n'était jamais dans la bonne terre parce que quand la tribulation arrive,
eh bien, ils abandonnent. Ils y trouvent une occasion de chute. Le chrétien, donc, se démarque par son attitude face à la tribulation. Romains 5, 3 dit bien plus, « Nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, et ça c'est le même mot, traduit ailleurs tribulation, mais ici traduit affliction deux fois. Nous savons que l'affliction produit la persévérance. » Et encore un lien entre deux choses que nous trouvons dans ce verset en Apocalypse. Nous savons que l'affliction peut faire, elle peut produire la persévérance, mais nous savons aussi en tant que chrétiens ce qu'elle ne peut pas faire. Romains 8, 35 dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce ?» Et la première chose qu'il mentionne, c'est ce mot encore. La tribulation, et bien sûr la réponse est quoi ? Non, elle ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Et donc Romains 12, 12 nous dit donc « Soyez patients dans l'affliction », ce même mot. Et nous croyons même, comme dit 1 Corinthiens 4, 17 et 18, que nos légères afflictions, même mot encore, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors, je vais vous lire une citation de Horace Monod, c'est le prédicateur français du 19e siècle. Il parle des afflictions et dit ceci. Ainsi, les afflictions, les tentations, les épreuves sont nécessaires au peuple de Dieu ici-bas. C'est par beaucoup d'afflictions, dit saint Paul, etc. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert, et nul aussi ne connaît, avant d'avoir souffert, toute la réalité des objets de la foi. Il y a des révélations d'amour divin, il y a des rayons de la céleste lumière qui ne resplendissent à nos regards qu'au milieu des ténèbres et au sein des tempêtes. Il faut que la terre se voile pour que le ciel, dans toute sa splendeur, descende jusqu'à nous. Telle est l'expérience douloureuse et glorieuse de tous les chrétiens. C'est devant un lit de mort, c'est au bord d'une tombe ouverte, qui se sent souvent senti sur le seuil de la vie éternelle. C'est dans l'abandon des hommes et dans le naufrage de leurs espérances terrestres qu'ils ont vu apparaître leur Sauveur vivant et présent tout près d'eux. Tout n'est pas dans la joie, et les deuils nous révèlent plus d'un trésor obscur. Quand le cœur a souffert, il sait mieux la prière. L'œil lavé par les pleurs à la sainte lumière offre un miroir plus pur. N'oublions jamais cette grande et sainte vérité, et quand le jour assigné à toute vie humaine, le jour de la souffrance, se lèvera à notre horizon, nous saurons que Dieu nous visite. Nous chercherons et nous trouverons le regard de notre Sauveur. Nous entendrons sa voix, nous saisirons sa main. Alors l'éclair foudroyant qui déchire la nue deviendra l'étoile qui nous guide. Alors les flots irrités qui soulèvent notre barque ne feront que la rapprocher du ciel. Je ne pourrais pas le dire aussi beau que lui, mais c'est une louange à la souffrance que Dieu nous envoie. Mais comment prendre part ensemble aux tribulations ? Ce qu'il dit ici, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, ou je suis votre compagnon dans la détresse, ou moi Jean, votre frère, je souffre avec vous. Alors je me suis posé la question, comment est-ce qu'on souffre avec d'autres chrétiens? Comment est-ce qu'on prend part ensemble à la souffrance? Et j'ai trouvé au moins trois manières dans la Bible. Et la première, c'est que nous souffrons pour le bien des autres. Nous souffrons parfois pour le bien des autres. Quand il dit « Moi, Jean, votre frère qui part avec vous à la tribulation », cela pourrait dire que j'entre en communion avec vous par le biais de la souffrance. Et on trouve ça plusieurs fois dans les épîtres. Paul en parle souvent. Par exemple, en Éphésiens 3, 13, il dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. » Ou Colossiens 1, 24,
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances, c'est ce même mot qu'en Apocalypse de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est-à-dire, ce qui manque dans notre communion avec les souffrances de Christ est progressivement complété dans nos vies. Et on souffre pour l'Église. Il faut accepter ça. Et dès que Dieu nous donne un rôle de responsabilité, que ce rôle soit formel ou non, comme Christ a souffert pour l'Église, il nous demande aussi à souffrir pour l'Église. Il y a des gens qui sont fatigués à cause de ce qu'ils font pour l'Église. C'est une souffrance. Imaginez que si on ne faisait rien qui nous fatiguait, on ne ferait rien. Donc, nous entrons donc, nous souffrons pour des personnes et nous entrons en communion avec eux comme une mère avec, pour ses enfants. Elle souffre avec eux parce qu'elle souffre pour eux. Mais deuxièmement, nous entrons en communion avec ceux qui souffrent. On peut entrer même en communion avec ceux qui souffrent. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui souffre et on vient, on se rapproche d'eux pour porter avec eux le fardeau, pour alléger leur fardeau et d'en prendre sur nous une partie du fardeau. Philippiens 4, 13 et 14, Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et donc ici, nous avons un autre mot avec la même racine de koinonia, « prendre part ». Et après, ce même mot traduit « tribulation ». Vous avez pris part à ma tribulation. Vous êtes entré en communion avec ma tribulation et ma détresse. Et comment est-ce qu'ils ont fait cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une façon très tangible en Philippiens 4. Ils lui ont envoyé de l'argent. Ils ont pris apparemment une offrande qui leur a coûté cher. Ils ont dû bien sacrifier pour envoyer à Paul de l'argent. Parce qu'il faut savoir qu'on peut être prisonnier, mais ça ne veut pas dire que c'est l'État qui va nous nourrir. Hein. On doit quand même pouvoir à nos propres besoins, même en tant que prisonnier. Et donc, ils prennent part à sa souffrance par ce don. Il y a aussi un passage qui nous aide aussi dans ce sens en Hébreux 10, 32 à 34. Et l'apôtre dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Alors, je lis Hébreux 10, 33. « D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions. » C'est notre mot ici, aux afflictions. « Et de l'autre part, vous associant, » et là, c'est encore un mot lié à koinonia, « prendre part à ceux dont la position était la même. » Donc, ils avaient souffert eux-mêmes, mais après, ils se sont associés à ceux qui souffraient. Vous dites, comment est-ce qu'ils ont fait cela? Eh bien, il explique juste après. « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. » Il parle ici des prisonniers pour Christ. Alors, imaginez, on met quelqu'un en prison. Il est haï, il est rejeté. Qui veut maintenant s'identifier avec lui? Vous voyez, il y a une souffrance qui vient pour celui qui ose avancer vers ce prisonnier pour l'aider. Et eux, ils étaient prêts à s'associer avec ces prisonniers. Et donc, dans ce sens, ils ont pris part, ils ont eu une communion avec eux. Jacques 1, 27 dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est ce mot. Consiste à les visiter, c'est-à-dire pour les soulager. Donc ça, c'est une façon de prendre part à la souffrance. On vient au secours de ceux qui souffrent. On s'identifie avec eux et on essaye de prendre un peu le fardeau de leur souffrance. Mais une troisième façon,
Et celle que je crois, et surtout dans ce verset en Apocalypse, c'est que nous souffrons les mêmes souffrances. C'est-à-dire, eux, ils souffrent, et nous, on souffre les mêmes souffrances. Et dans 1 Thessaloniciens, il dit que vous, c'est 1 verset 6 et 7, vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Et donc, vous êtes devenu un modèle même. Vous m'avez imité, vous êtes devenu à votre tour un modèle pour les autres. Mais après, il leur dit ceci, c'est intéressant, c'est au chapitre 2, verset 14. Il dit, vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Alors, vous savez, ils sont à 2000 kilomètres de loin. Il dit, vous avez devenu les imitateurs de l'église en Judée. Comment ça ? Il dit, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Elles souffrent et vous souffrez la même chose. Vous êtes à 2000 kilomètres de loin, mais vous souffrez comme eux. Vous êtes des imitateurs de cette église à Jérusalem. Et donc, il leur dit plus tard dans la lettre, il a dit, nous avons envoyé Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. C'est ce même mot, affliction, mais avec un adjectif très important. C'est quoi l'adjectif ? C'est les afflictions présentes, c'est-à-dire elles ne vont pas durer. Et donc quand il dit en Apocalypse, moi Jean votre frère qui est part avec vous à la tribulation, cela veut dire qu'il partage avec eux les mêmes souffrances. Et là on a tendance de dire, mais Jean était sur l'île de Patmos, il était tout seul. Certainement il souffrait autre chose que les chrétiens à qui il écrit en Asie. Est-ce que c'est vraiment qu'ils souffraient la même tribulation, la même affliction? Et la réponse est oui, parce qu'ils souffraient l'un et l'autre pour la même personne. Et plusieurs fois dans le Nouveau Testament, nous lisons ce qui est appelé les souffrances de qui? Les souffrances de Christ. Par exemple, 2 Corinthiens 1, 5, car de même que les souffrances de Christ abonde en nous. Ou Philippiens 3, 10 parle de la communion de ses souffrances. Colossiens 1, 24 parle des souffrances de Christ. Vous voyez ? Donc, on peut souffrir dans des endroits différents. On peut avoir des expériences très, très différentes les unes des autres et les uns des autres. Mais si c'est pour Christ, dans un sens, c'est la même affliction, c'est la même tribulation. Nous souffrons ensemble les tribulations de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, d'ailleurs, souffre avec nous. C'est ce qu'il a dit à Saul sur le chemin de Damas. Il a dit, pourquoi, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Nous entrons dans les souffrances de Christ, comme Paul dit, la communion de ses souffrances. Même si c'est la plus petite des persécutions, et quand nous comptons nos persécutions, nous devons les compter en milligrammes, n'est-ce pas? Parce que les autres les reçoivent dans les kilos, et nous on reçoit en milligrammes. Mais c'est quand même la souffrance de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de précieux que nous souffrons avec tous les autres chrétiens dans le monde. Les mêmes souffrances. Les souffrances de Jésus-Christ. Alors, je vais vous montrer deux versets en 1 Pierre. Si vous voulez bien trouver 1 Pierre, chapitre 1, et les versets 10 et 11. Et il dit, 1 Pierre 1, 10, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce que vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. » Donc il parle des prophètes de l'Ancien Testament. « Et qui attestaient d'avance, il y a deux choses ici, notez-le, les souffrances de Christ Et puis quoi? La gloire dont elle serait suivie. Notez ces deux choses. Les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il parle de la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Ok. Gardez ces deux choses dans votre esprit et trouvez le chapitre 4. Alors Jésus dit, je vais juste vous citer un verset avant, quand il est sur le chemin d'Emmaüs après sa résurrection, en parlant de ces deux choses. « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est loin de croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ, quoi, souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Donc, ces deux choses, les prophètes l'ont dit. Il doit souffrir et entrer dans sa gloire. Et Pierre leur dit, ces prophètes, oui, ils l'ont dit et ils cherchaient en même temps de comprendre encore plus les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Alors, 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au quoi ? Aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque, quoi, sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors, est-ce que vous avez noté ces deux choses encore ? Les souffrances de Christ et la gloire qui doit suivre, mais quelle est ajoutée ici ? Quelle est l'idée qui s'ajoute donc maintenant à cette souffrance et cette gloire ? Nous allons quoi ? Il le dit, hein ? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Et aussi de la joie, c'est-à-dire votre joie, et votre allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est-à-dire, quand vous allez voir sa gloire, vous allez vous réjouir, vous allez partager dans sa gloire. La Bible dit, nous serons même comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons nous-mêmes glorifiés. Nous avons une propre glorification à venir, parce que nous allons partager dans la gloire de Christ. Tels sont les terrestres, dit 1 Corinthiens 15, mais tel est le céleste, tels aussi sont les célestes, et si nous avons, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc ce qui est ajouté ici, c'est que nous allons partager dans ces choses. Partager les souffrances de Christ, oui, mais aussi partager la gloire de Jésus-Christ. C'est ça la beauté ici. Et donc ça nous amène directement donc à la deuxième chose. Je partage avec vous, je suis votre compagnon, c'est vrai, dans la tribulation. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation, mais quelle est la deuxième chose ? Mais au royaume. Au royaume. Il y a un lien intime entre nos souffrances et le royaume. Nous venons de le voir en 1 Pierre, que Jésus lui-même a passé par les souffrances avant d'aller dans sa gloire. Nous avons lu 1 Corinthiens 4, 17, nos légères afflictions, c'est ce mot, tribulation, présent, produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc il y a ce lien. Nous avons lu Acte 14 qui dit que c'est par beaucoup de tribulations, ce mot, qu'il faut entrer dans le royaume, encore le mot en Apocalypse. Il y a un lien intime dans le Nouveau Testament. On passe par des tribulations avant d'entrer dans le royaume et dans la gloire. Il y a aussi un lien en Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il dit, en fait, vous n'allez pas recevoir la gloire sans passer par la souffrance. Il y a encore un lien en 2 Thessaloniciens 1, 4. votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Vous voyez, ces souffrances vous jugent dignes du royaume qui va venir. Et Jean a déjà parlé du royaume. Si vous regardez en Apocalypse 1, verset 5, il a dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Et maintenant, il dit, je prends part maintenant avec vous au royaume. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas dire, bon, je prends le royaume, mais pas la tribulation. Les deux sont inséparables. Il faut accepter la tribulation pour arriver au royaume. Alors, que faut-il être pour faire part au royaume? Jésus a dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et juste après, il y a le jeune homme riche qui vient. Et là, la réponse de Jésus est clairement le contraire. Là, il ne dit pas à ceux qui le ressemblent, en fait, il le repousse. Et donc, nous voyons le contraste pour ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, oh, Jean, c'est le plus grand des prophètes, mais si vous êtes dans le royaume, vous êtes encore plus grand que Jean. Alors, ça ne veut pas dire que Jean ne faisait pas partie du royaume. Mais dans son rôle de prophète, il était celui qui annonçait la venue du roi. Mais Jésus dit, c'est bien de pouvoir annoncer la venue du roi, mais c'est encore mieux de faire partie du royaume du roi. Alors, je m'arrête là parce que le temps n'est plus avec moi. Et je ne sais pas, peut-être il neige, il y a peut-être déjà 10 cm de neige dehors. Vous allez être tous coincés ici au temple, passer la nuit. Mais il y a des très belles choses là-dedans. Et de penser à ces deux idées. Le royaume qui nous est promis, la tribulation. Juste à penser, méditer sur ces choses. Je crois qu'il y a de quoi nous nourrir cette semaine. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions que nous puissions faire partie de la même famille que Pierre et Jean et tous les apôtres, qu'Abraham, que tous les saints de l'Ancien Testament, et que nous puissions être des frères et des sœurs avec eux. Nous savons qu'il y a des biens communs à tous les enfants dans cette famille divine. Et que ces biens incluent la tribulation. Et nous te demandons de nous aider à être patients dans la tribulation. Et à fixer nos yeux sur la rémunération. À ne jamais douter que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Que le royaume est à nous, que nous faisons partie même du royaume. Et que nous puissions donc regarder ces afflictions du présent comme nécessaires, comme tu dis, mais comme produisant vraiment un poids immense de gloire que nous allons en jouir pendant toute l'éternité. Rends-nous persévérants et patients et donne-nous la joie, que la joie du Seigneur soit notre force. Nous prions dans le nom de Christ et pour sa gloire. Amen.